Alors, gloire à Dieu, merci Seigneur pour cette opportunité de recevoir ta parole qui nous transforme Seigneur et nous amène encore plus près de toi. Au nom de Jésus, amen. Nous allons lire dans Hébreux 12, les deux premiers versets. Je vais essayer de lire aussi en même temps en français courant. Hébreux 12, les deux premiers versets. Hébreux 12. Alors il est écrit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je vais lire aussi en français courant. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Il s'agit des témoins qui sont décrits dans Hébreux 11. Là, nous sommes dans Hébreux 12, juste avant. Le chapitre 11 est consacré à tous les gens qui ont servi le Seigneur dans la vérité et avec foi. Les Jacob, les David, les Abraham, Isaac. Donc, le chapitre 11 nous présente ces gens-là comme des témoins. C'est-à-dire des gens qui sont là pour nous dire, j'ai fait. Je suis passé par ce que tu passes. J'ai vécu ce que tu es en train de vivre. Ce sont ces gens-là qui sont comme nos témoins pour dire, si Dieu a réussi avec eux, il peut réussir avec nous. C'est ça, ces témoins-là qui sont décrits dans Hébreux 11. Donc, l'apôtre nous dit, nous sommes environnés de tous ces témoins et il y en a beaucoup. Les gens aiment à donner les exemples de ceux qui échouent au milieu de nous, mais nous avons beaucoup d'exemples de gens qui ont réussi avec Dieu. Abraham, Jacob, Isaac, Paul, Jean, il y en a beaucoup. Et maintenant, l'apôtre nous dit, puisque nous sommes environnés de tout ce grand nombre de témoins, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Et courons résolument la course qui nous est proposée. Il dit, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche. Quels sont les fardeaux qui t'alourdissent? Il faut s'en débarrasser. Il faut progresser vers le ciel. On a des gens qui nous ont précédés, qui ont réussi dans ce combat. Et d'ailleurs, Paul lui-même dit dans 2 Timothée 4:7, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Cela est possible. Mais il ne faut pas traîner les choses qui peuvent nous alourdir. C'est une réalité. Beaucoup sont freinés à cause des choses qui font du poids sur leur marche. En particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Donc, on nous parle du péché qui est le premier ennemi. Il y a beaucoup d'autres fardeaux. Mais le premier, en particulier, c'est le péché qui nous s'accroche facilement à nous. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut courir résolument la course qui nous est proposée. Nous avons une carrière, nous avons un parcours à faire avec le Seigneur. Il faut faire cela avec ténacité, résolution, perspicacité, détermination. Courir cette carrière, c'est en débarrasser du péché qui nous enveloppe facilement. Mais on nous dit que ça nous enveloppe facilement, mais comment s'en débarrasser? Voilà. Et maintenant, on lit le verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend, du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. On nous dit, gardons les yeux fixés sur Jésus. Quelle a été sa vie? Jésus a fini à la croix. Mais c'était son parcours pour nous donner une totale victoire. Imitons Jésus qui a accepté d'aller à la croix en prévision de la grande joie qui allait le voir au ciel, couronné roi des rois, seigneur des seigneurs, et ayant une série de frères et sœurs qui le suivent. C'était sa joie de voir qu'il allait libérer tant de frères et sœurs et qu'il allait être couronné roi des rois. Donc, en vue de cette joie, il a accepté d'aller à la croix. Ça voudrait dire que dans notre parcours, nous serons amenés à souffrir. Mais qu'est-ce qui doit nous fortifier? C'est la joie à venir. La royauté à venir et tous les gens qui pourront être sauvés par le travail que nous faisons. C'est ça qui doit être notre joie. Ce n'est ni l'argent, ni le succès sur terre. On nous demande d'avoir les yeux fixés sur celui qui a été à la croix. Donc on doit imiter sa vie. Il a regardé la récompense à venir et il est parti dans la souffrance. Nous aussi, les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons imiter la même chose. Passer par le chemin de l'humilité, l'humiliation, le chemin du brisement, non pas par nos propres efforts, mais par la grâce de Dieu. Dieu lui-même nous portera dans ce chemin-là, comme il a envoyé un ange soutenir son fils à Gethsémané. Et c'est cette force-là qu'il a amené jusqu'à la croix. Mais Dieu nous donnera la force. Mais c'est notre chemin et nous attendons la récompense à venir. Alors, le thème de notre prédication, c'est victoire par la repentance. C'est Hébreux 12, 1 à 2, nous expose un parcours que nous avons à mener, une course que nous avons à mener. Et on nous dit qu'il y a deux problèmes, il y a des fardeaux qui nous alourdissent. Ce n'est pas trop notre sujet. Dans ces fardeaux-là, il peut y avoir des démons. Dans ces fardeaux-là, il peut y avoir certains plaisirs de la terre. Dans ces fardeaux-là, il peut y avoir des préférences familiales. Il y en a beaucoup de fardeaux, mais on insiste sur le péché. Le péché est le plus dangereux de fardeaux parce qu'il t'enveloppe, il t'étouffe, il te tue. Alors, Dieu nous a donné la clé pour vaincre le péché, c'est la repentance. Parce qu'à la croix, Jésus a déjà vaincu le péché. Il est mort à la croix pour que nous soyons pardonnés. Mais maintenant, comment nous, dans notre marche de tous les jours, nous pouvons vivre dans la victoire, accomplir le plan de Dieu, le projet de Dieu pour nous, être une bénédiction pour beaucoup de personnes, être la gloire de Dieu sur terre? Cette victoire-là, Dieu, pour obtenir cette victoire, Dieu nous a donné une arme excellente, efficace. Ça s'appelle la repentance, la confession, afin que nous luttions âprement, durement contre le péché et que nous soyons vainqueurs par la repentance. Et nous allons lire Romains 6, 23. Romains 6, 23 à 24, c'est un passage que nous connaissons. Même si ce n'est pas affiché par la vidéo, nous devons même mémoriser ce passage-là. Romains 6, 23 à 24. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. Non, c'est juste Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché produit la mort. Et quand on dit la mort, les gens ne pensent qu'à la mort physique. Non. Pour arriver à la mort physique, il y a des instruments. Il y a des assistants de la mort qui sont là. La maladie, la colère, la haine, la bagarre, la haine qui fait que tu tombes dans la dépression. Tout ça, c'est la mort. La mort, c'est ce qui t'amène à la mort spirituelle et physique. C'est ça, la mort. Quand on est dans le péché, on est en train de mourir. Même si on s'en rend pas compte. Dans un avertissement qu'on donne à une église d'Apocalypse, on dit, mais tu te crois vivant, mais tu es mort. Écrit à l'ange. de cette église-là. Il se croit vivant, mais il est mort. C'est pas parce qu'on respire qu'aux yeux de Dieu, nous sommes vivants. Le péché peut nous tuer à petit feu, comme rapidement. Mais ça reste un processus de mort. On va devenir improductif, stérile, ou on va produire du poison. Ça reste de la mort. Il y a des gens qui sont productifs, mais ils produisent du poison. Ils incitent les gens à aimer l'argent, à aimer les choses de la terre. Et beaucoup de gens les suivent. Mais ça produit quoi? Ça produit la mort. Ça produit la mort. Le péché est très très dangereux. Si Jésus est venu sur terre, c'est à cause du péché. Ce n'était pas pour faire une grande église. Ce n'était pas pour faire une grande famille. C'est pour vaincre le péché et nous donner la possibilité de vivre en enfant de lumière, en enfant de Dieu. C'est ça la raison de la venue de Jésus. Si Jésus-Christ est venu pour le péché, c'est que le péché, c'est quelque chose de grave aux yeux de Dieu. Mais c'est grave aussi en soi-même parce que ça tue. Or, Dieu, c'est la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est Dieu. Et la mort qui est produite par quoi? Par le péché. D'ailleurs, 1 Corinthiens 15 nous en parle largement. Il dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon, c'est l'aiguille qui sert à piquer pour inoculer le venin. Il dit, mais l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le dard. Ça te pique et la mort peut maintenant agir en toi. Et la mort agit dans beaucoup de chrétiens. Bien-aimés, ne nous méprenons pas sur la logique de l'activité. On peut faire des activités, mais on est mort spirituellement. Parce que on n'est pas un instrument purifié devant Dieu, un instrument de gloire devant Dieu. Vous savez, en termes d'activité, les gens du monde, je peux dire même parfois, sont supérieurs à nous. Quand je vois, par exemple, à la télé, en plein hiver, il pleut. Les gens regardaient un match pendant 2h30 au stade. Ils ont payé leur transport. En moyenne 20 euros. Ils ont payé le stade en moyenne 80 euros. Et il pleut. Il fait froid. J'ai dit, mais ces gens-là sont plus engagés que beaucoup de chrétiens. Si on doit parler en termes d'activité, c'est pour nous dire que l'activité chrétienne, ce n'est pas ce qui montre qui on est. Parce que l'activité, beaucoup peuvent en produire pour des choses vraiment inutiles. Beaucoup. Dans le froid, quand les gens font les rêves partis, là, ils font ça toute la nuit, dans le froid, dehors. Mais c'est de l'activité. Mais c'est quelle activité? Inutile. Quand les gens payent 300 euros pour l'opéra, c'est de l'activité. L'activité ne montre pas la réalité. La réalité, c'est la nature de Christ. Et même si les œuvres liées à la nature de Christ sont parfois invisibles, éternellement elles produisent. Alors que quelqu'un peut être actif, être visiblement actif, mais produire la mort. Parce qu'il éloigne les gens de la vie, il éloigne les gens de la vérité. Nous devons comprendre cela, bien-aimés. Le vrai problème pour lequel Jésus est venu, ce n'est pas pour nous rendre actifs, c'est pour nous libérer du péché. Maintenant, la conséquence de tout ça, c'est qu'il a libéré aussi la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui nous rend actifs. Mais que nous ne nous imprégnions pas. Ce n'est pas parce que tu es actif pour le Seigneur, que tu es dans son plan, que tu es dans le parcours qu'on a lu dans Hébreux 12. On a une grande carrière, un grand parcours. C'est pas parce que tu fais des activités, tu peux tourner en rond. On l'a souvent dit. Quand on tourne autour d'un rond-point, on est actif. On bouge. Et l'essence peut finir en faisant peut-être 1000 tours. Mais tu es toujours au même endroit. Mais la voiture tourne. C'est pas ça le but du Seigneur. Le but du Seigneur, c'est de faire un parcours avec lui. Produire du fruit. Dans Jean 15, il dit, mon Père sait qu'il le glorifie, c'est que vous portiez du fruit. Il y a un parcours à mener. Et le péché est un des grands problèmes. Et avec le temps, le chrétien finit par négliger le péché. Avec le temps. Parce qu'il se dit déjà sauvé. Deuxièmement, parce qu'il se dit, mais je peux confesser. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Il finit par quoi? Par oublier de se repentir. Il finit par oublier la dangerosité du péché. Et il se fait piquer et finit très très mal. Et il finit même par être sous l'emprise des forces démoniaques. Lui qui est censé être au-dessus des forces démoniaques, il finit par être sous l'emprise des forces démoniaques. On va lire tout ça. Le péché est dangereux. Donc lorsqu'on le néglige, il finira par nous dominer. Nous allons lire Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Ça aussi, c'est quelque chose à mémoriser. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous lisons aussi dans le français courant pour voir toujours plus clair. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. Voilà. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes. Il ne prospère pas. Et un des pièges du diable, c'est de nous faire oublier le rejet du péché, la repentance. C'est un des grands pièges du diable. Au fait, on a l'impression qu'en tant que chrétien, on a le ticket du ciel. C'est comme, vous savez, quand vous avez un ticket. Vous avez le ticket, hein. Que vous soyez sale ou propre, vous avez le ticket, vous allez entrer au cinéma, vous allez entrer dans le match de foot, vous allez entrer. Quand vous avez le ticket, donc, il nous fait quoi? On a le ticket. C'est pas grave. Et il nous fait croire que si nous avons péché, c'est à cause de la faute de l'autre. Donc, ce n'est pas trop notre faute. Parce que quand même, on a été provoqué, on a été tenté. Elle n'avait pas qu'à s'habiller comme ça. Donc, il nous fait croire que si on tombe, ce n'est pas la faute de l'autre. C'est parce qu'il y a un harcèlement et tu as fini par lâcher. Il nous fait croire que Dieu ne nous a pas aidés. Et au lieu de nous repentir, on est en train de réfléchir. Ah oui, mais c'est quand même quelqu'un de gentil. Je ne peux pas rompre avec lui. Alors que c'est le péché de concubinage. Ah oui, j'ai quand même des enfants à élever. Et cet argent-là, c'est l'argent de personne. Je peux cacher ça. Or, c'est une malhonnêteté, une malversation que tu es en train de commettre. Le diable te fait croire que Dieu te comprend. Et au lieu de te repentir, au lieu de rejeter le mal, on est dans une sorte de léthargie, hébétude. Donc on est hébété, on est plat, on est comme endormi. C'est ça son but, n'oubliez pas. On appelle le péché l'aiguillon du péché. Donc le péché fait passer un venin. Est-ce que vous avez déjà vu un serpent inoculer le venin sur quelqu'un, sur un animal? Quand il mord l'animal, il ne fait plus rien. Il attend de voir l'effet du venin. Le péché a un effet. Quand on t'a piqué, Satan laisse maintenant regarder comment ce péché-là va continuer à produire en toi et te détériorer, te nuire. Petit à petit, tu es en train dans un endormissement. Il fallait que tu réagisses dès que tu étais piqué, mais toi, tu as laissé faire. Pendant que tu laisses faire, celui qui cache les transgressions, celui qui laisse faire, mais il laisse le venin agir. Qu'est-ce que les gens conseillent quand on est piqué par un serpent? Rapidement de faire un garrot pour éviter que le venin monte dans tout le corps. On fait un garrot à l'endroit où on a été piqué. Parce qu'il faut surtout pas lui laisser le temps. Mais le diable nous convainc de laisser le temps. C'est l'une des grandes erreurs. Laisser le temps au péché. On ne doit pas lui laisser le temps. On doit réagir vite. On doit se repentir. Et quand il nous voit nous repentir, il nous dit, mais ça fait 5 fois que tu te repens. Et du coup, la 6e fois, tu te dis, c'est vrai, je vais fatiguer Dieu. J'attends un peu. Aïe, 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 c'est ça l'erreur qu'il ne faut pas commettre. J'attends un peu. C'est-à-dire, tu laisses le péché travailler en toi. Ce n'est pas bon. Il travaille tranquillement. Et tu te dis, je n'ai pas le choix. La vie, c'est comme ça. À notre époque, il y a trop de tentations. Et on laisse le péché travailler, c'est ce qu'il faut surtout pas faire, bien-aimé. S'il y a quelque chose qu'il faut pas faire, c'est laisser le péché travailler, parce qu'il comporte un venin. Quand on le laisse travailler, au lieu de réagir, de dire, Seigneur, je te demande pardon, mais tu continues. La tentation se trouve au travail. Tu vis la tentation aujourd'hui. Tu tombes peut-être dans la pensée. Tu reviens à la maison, au lieu de te repentir, tu ne te repens pas. Même déjà au travail, au lieu de te repentir, tu ne te repens pas. Tu commences à philosopher. Comment je vais m'en sortir avec cette affaire? Surtout que c'est au travail que ça se passe. Tu commences à réfléchir. Ne réfléchis pas. Dieu n'aime pas le péché. Il nous a donné l'autorisation qu'on va lire dans 1 Jean 1:9. Pourquoi tu ne veux pas utiliser ça? 1 Jean 1:9. Il nous a donné la capacité à nous débarrasser du péché. C'est un verset aussi à mémoriser. Donc, vous voyez que je les lis avant de les trouver. 1 Jean 1:9, celui qui confesse ses péchés. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Je vais lire aussi en français courant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. On dit même il est juste. Donc, Dieu nous pardonne dans sa justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ est mort à la croix pour nos péchés. Donc, si Dieu doit être juste, quand nous on fait référence à Jésus, il est obligé de nous pardonner, en quelque sorte. C'est parce qu'il est juste. Je dis que, mais Seigneur, je viens à cause du sang de l'agneau. Pardonne-moi. Il te pardonne. On a ça. Pourquoi ne pas utiliser ça? Le diable te dit, mais non. Tu vas demander pardon aujourd'hui. Demain, tu vas voir encore l'objet de ton problème au travail. Tu vas faire quoi? Ça ne sert à rien. Tu vas demander pardon là. Tu vas aller dans la rue. Tu vas voir encore l'objet de ton problème. Tu vas demander pardon là. Tu vas aller sur Internet. Tu vas voir encore la chose. Tu as encore le risque de tomber. À quoi ça sert de demander pardon? Tu as encore plein de risques de tomber. Et quand toi tu écoutes ça, tu laisses aussi le venin commence à faire son travail. C'est très dangereux, mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Amen. On a cet instrument extraordinaire, 1 Jean 1:9. Confessons, demandons pardon à Dieu et demandons à Dieu de nous purifier de tout mal. Il le fera, c'est lui qui dit. Mais le diable nous convainc de laisser faire. On passe notre temps à réfléchir sur les causes du péché, pourquoi je suis tombé. On passe notre temps à réfléchir sur les personnes qui nous causent à pécher. On passe notre temps à chercher notre solution personnelle aussi. Comment je peux faire pour en finir avec ce péché? Bon, je vais arrêter de passer dans telle rue. Comment je vais faire? Bon, au lieu tout simplement de dire « je n'en veux pas ». Donc Dieu attend de toi que tu dises « je n'en veux pas ». Pourquoi tu n'en veux pas? Parce que tu es un enfant de Dieu, un enfant de lumière. Tu n'es pas censé vivre dans le péché. Et l'esprit qui est en toi est troublé quand tu es dans le péché. Éphésiens 4:30 nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit par le péché. L'esprit qui est en nous est troublé. Au lieu de suivre ce trouble-là et de dire « j'en veux pas Seigneur, moi aussi j'en veux pas. Je sens que tu es troublé, mais moi aussi Seigneur j'en veux pas. Pardonne-moi. » Mais on écoute plutôt la voix du diable qui nous dit « attends encore un peu ». Résous d'abord le problème avant d'y renoncer. Même si tu renonces aujourd'hui, demain tu vas faire comment? Voilà ce que le diable te dit. Du coup, tu restes là. Tu ne demandes pas pardon. Tu laisses. Surtout aujourd'hui, Dieu m'a parlé de dire aux gens qui laissent la colère agir. C'est un passage que je n'avais pas prévu, mais c'est dans Éphésiens 4:26. On va lire ça rapidement. C'est, vous allez vous tuer. La colère, c'est quelque chose de très, très dangereux. Ce n'est pas parce qu'au début, ce n'est pas encore un péché qu'il faut blaguer avec la colère. Ça le devient très vite un péché. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il m'a interpellé pour parler aujourd'hui aux gens qui se laissent avoir par la colère et qui dorment avec la colère, qui traînent la colère une semaine, deux semaines, un mois. Vous êtes en voie de perdition. Vous êtes tués, vous ne vous en rendez pas compte. Pourquoi vous ne vous en rendez pas compte? Parce que la mort vous a déjà saisi. Réveillez-vous. Ne laissons pas le péché agir. Nous avons 1 Jean 1:9. Nous sommes du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas la colère. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas la haine. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas le péché. Le Seigneur ne nous demande pas de fuir le péché comme un exercice. Il dit, vous êtes comme moi, vous êtes mes enfants, ce n'est pas notre vie, le péché ce n'est pas pour nous. Résistons au péché, refusons le péché. Et beaucoup de gens ont du mal parce qu'ils n'ont pas encore choisi la vie du ciel. Ils se sont convertis en chrétiens. Officiellement. Mais dans leur conception, un chrétien, c'est celui qui réussit sa vie terrestre. C'est ça leur conception. Il va avoir une bonne femme, un bon mari, des bons enfants. Et dans leur conception, l'église, c'est un endroit parfait. Tout le monde est bon, tout le monde est droit. Dans leur conception, Dieu doit me donner ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de maigrir. Il doit me donner. J'ai besoin d'avoir une grande amie en Christ. Il doit me donner une grande amie avec qui je partage tout. Et ils n'ont pas la conception de la grandeur de Dieu, de la vie céleste. Vous savez, un jour, on est venu voir Jésus pour lui dire, mais quand cette personne qui a eu la même femme, quand ils étaient sur terre, c'est-à-dire à chaque fois un meurt, l'autre prend la femme. Ils sont sept. Maintenant, au ciel, ils vont faire comment? Jésus a dit, vous connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Au ciel, on ne se mariera pas, on sera comme les anges, Jésus leur explique. C'est ça la vie du ciel. Et quand dans 1 Corinthiens 7, on nous dit que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que la vie du ciel, il n'y a pas le mariage. Pourquoi tu veux te forcer, toi, à avoir un mariage impeccable sur terre où tout est bon? On te dit non. Si ça ne va pas, en attendant que ça aille, ce n'est pas que Dieu cherche que le mariage n'aille pas, en attendant que ça aille, vis comme si tu n'étais pas marié. C'est la vie du ciel. Quand on n'aime pas la vie du ciel, on aura toujours des problèmes avec le péché sur la terre. Parce qu'on va utiliser quelque chose dont on a le droit. Par exemple, ton argent, c'est ton argent. Alors quand on te le vole, tu te dis, c'est mon droit d'aller chercher le voleur, parfois de le taper, de lui faire une prise de judo et puis de l'amener je ne sais pas où. Mais si tu écoutes la voix du ciel, on te dit, si on te prend, tu donnes aussi encore. On te gifle, tu donnes l'autre jour. Mais si tu écoutes la justice humaine, tu veux que la terre soit un paradis pour toi, tu dis non. On m'a tapé, on a tapé mon fils, je dois leur montrer qu'il a un papa, moi aussi je vais frapper. Donc quelque part, tu veux que ta terre soit excellente, correcte. Mais non, aime la vie du ciel. La vie du ciel, c'est une puissance qui vient d'en haut, qui va te protéger, qui va justifier ton fils, qui va le protéger. Vous savez, nous tous, on est des humains. Parfois, on se pose des questions, mais Seigneur, quand même, dans des pays compliqués, il faut quand même qu'on ait une certaine, une arme quand même dans la poche. Voilà, il y a des pays quand même qui sont compliqués, tout ça. Mais on a des témoins, des anciens chrétiens qui, malgré tout, dans ces pays compliqués, ont refusé. Parce qu'ils connaissaient, ils connaissent la tentation de l'arme. Quand tu as une arme, tu auras toujours tendance à l'utiliser. C'est comme ça. Peut-être on va te gifler, au lieu de faire les choses proportionnellement, tu vas prendre ton arme. Parce que la personne qui est en face de toi a 2 mètres et a 140 kilos, donc tu te dis, ma gifle à moi ne servira à rien, c'est mon arme qui va servir à quelque chose. C'est comme ça que ça finit toujours mal. Un jour, j'ai regardé une enquête policière concernant la mort d'un chrétien. Cet homme était fidèle aux activités de l'Église, correct, honnête. Dans toute la ville, on l'aimait. Il avait une société de dépannage. Tout le monde l'aimait. Mais il s'est fait tuer par un petit voleur qui voulait juste lui piquer sa carte bancaire. Par derrière, il lui a mis un coup de couteau au cou. Mais vous savez, qu'est-ce que cet homme n'oubliait pas chaque jour qu'on l'appelait au dépannage? Il n'oubliait pas de prendre son revolver. Donc, moi, au début, quand je suis ça, je dis, mais Seigneur, tu vois quand même, c'est un bon chrétien, mais il n'oublie pas son revolver. Voilà, c'est quand même des précautions. Mais à la fin, quand j'ai vu qu'il avait son revolver dans la poche, mais il ne s'attendait pas à ce que cet homme-là le tue, l'homme l'a tué par derrière. J'ai compris que son revolver était inutile. Qui était le grand protecteur? C'est le Seigneur. Ce jour-là, j'ai été libéré. Nous sommes tous des humains, il y a des choses qui trottent dans la tête. Tu dis quand même, il faut quand même un peu de protection. Mais ce jour-là, j'ai été libéré. J'ai compris que la seule protection vient de Dieu. Parce que dans le documentaire, cette enquête-là, on expliquait que cet homme n'oubliait jamais son arme. Dès qu'on l'appelait pour le dépannage, il amenait son arme. Il préparait les papiers, il préparait tout et il préparait son arme à la fin dans la poche. Donc jamais il l'oubliait. Mais pourtant, c'était un chrétien. Mais Dieu m'a montré ce jour-là, tu vois, malgré son arme, il s'est fait tuer. Il n'a même pas eu le temps de l'utiliser. Qui vraiment protège? C'est Dieu. C'est Dieu qui protège. Mais le diable va te faire croire que non, tu dois te protéger toi-même. Parce que tu veux rendre ta terre parfaite. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens finissent par le péché, finissent par se mettre de fardeau, parce qu'ils veulent tellement rendre la terre parfaite, ils vont finir par faire des grandes bêtises. Alors qu'il devait supporter, comme on nous dit l'exemple de Jésus qui a supporté jusqu'à aller à la croix. Il ne s'est pas vengé des gens qui lui faisaient du mal. Il a préféré aller jusqu'à la croix. Et quand le ciel veut nous amener à la croix, nous on dit, ah non, quand même, Dieu nous a promis le bonheur, il nous a promis la joie. Moi je suis sur terre, il faut que je me marie, il faut que ceci, il faut... Mais ça ne veut pas dire que si tu dois te marier, tu dois te marier avec la mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que si tu dois te marier, tu dois le faire avec précipitation, sans utiliser la parole. La Bible, oui, nous autorise à nous marier, mais quand nous devons le faire selon les principes de la parole de Dieu. C'est pas parce qu'on nous autorise à le faire qu'on doit courir vite et prendre des raccourcis. Ça finit toujours mal. Parce qu'on a voulu une bonne terre. Alors que si on avait voulu le ciel malgré tout, on dit oui, c'est vrai, j'ai le droit de me marier, mais je vais me marier dans la paix du Seigneur. Je vais me marier dans la gloire du Seigneur. Là, tu ne te feras pas piéger. Combien de sœurs n'ont-elles pas été piégées comme ça? Parce qu'elles ont voulu à tout prix se marier. Au lieu de suivre la volonté de Dieu, au lieu de suivre les voies du Seigneur, personne ne t'empêche, mais fais les choses dans le Seigneur. Mais non. Et tu vas tomber sur quelqu'un qui a déjà pris 5 fiancés avant toi et qui à chaque fois iront. Il faut faire attention. Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Aimons la vie du ciel et nous serons vainqueurs du péché. Lorsque Satan viendra avec ses propositions comme il est venu, c'était même pas un péché, hein, mais il est venu avec cette proposition-là à Jésus. Transforme les pierres en pain pour que tu manges. Satisfais ton corps. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Et Satan va te dire, tu es jeune. Tu dois satisfaire ton corps. Vous exagérez avec votre Bible là. Regarde bien. Moïse n'avait-il pas plusieurs femmes? Et Jacob? Et c'est ainsi que tu commences à glisser parce que tu veux justifier ton péché. Tu commences à glisser. Il y a toutes sortes d'éléments que Satan va nous donner pour nous faire traîner, nous pousser à ne pas nous repentir, nous pousser à ne pas rejeter un péché dans lequel on est ou bien on tourne autour d'un péché. Au lieu de confesser parce que nos pensées tombent souvent, nous tombons souvent dans les pensées, au lieu de les confesser à chaque fois, on traîne parce qu'il nous donne toutes sortes de raisons pour nous laisser dans ça. Conséquence, il va avoir une emprise sur nous. Quand le venin va prendre, les gens ne vont plus te reconnaître. Quand le venin prend, bien-aimé, on ne te reconnaît plus. Le frère est devenu soulard. Ben oui, oui. Parce qu'au moment où il devait réagir, au moment où il devait se repentir, il ne sait pas repentir. Et puis, il y a eu une emprise démoniaque. Une emprise démoniaque. On ne comprend pas, on va apprendre un homme de 65 ans à violer. Tu te dis, mais comment ça en est arrivé là? Parce que au moment où il fallait lutter, il n'a pas lutté. Bien-aimé, ma prédication, c'est lutter. C'est repentir. C'est repentir. Vous savez, la meilleure, au football, on te dit la meilleure défense, c'est attaquer aussi. Parce que quand tu n'attaques pas, donc ça veut dire que tu laisses l'autre s'organiser tranquillement et t'attaquer. Tu es là, tu attends qu'on t'attaque pour te défendre, c'est tout. Mais non, mais quand tu attaques l'autre, tu l'empêches de s'organiser pour t'attaquer. Donc, quand on se repent à chaque fois, bien sûr, il va nous dire, mais tu te repens trop, le diable. Ne l'écoutons pas. Jésus a dit, combien de fois nous devons pardonner? 70 fois 7 fois. Voilà, donc si nous pouvons pardonner 70 fois 7 fois, combien plus forte raison Dieu lui-même? Ne l'écoutons pas. Repentons-nous. Si on s'est repenti hier, on tombe aujourd'hui. Repentons-nous encore. Demain, repentons-nous. Vous allez voir que à un moment, vous n'allez plus pécher. Il faut faire une lutte terrible. Ne pas le laisser en paix, le péché. Jamais le laisser en paix. Dès qu'il t'a pris, tu te repens. tu refuses ça. Tu dis, je ne veux pas. Repentir, c'est refuser. Tu dis, je ne veux plus de péché. Seigneur, pardonne-moi et je n'en veux plus. Moi, je veux la vie du ciel. Je veux vivre dans l'abstinence. Je veux vivre comme toi, Jésus. Et c'est possible puisque toi, tu as vécu comme ça. C'est possible puisque Paul a vécu comme ça. Je veux vivre comme ça. Je veux vivre dans la joie. Je ne veux plus la colère. Aujourd'hui, la mention spéciale est aux gens de la colère. Tu peux vivre autrement. Il y a des gens qui, la colère est devenue pour eux quelque chose qui a un goût. Hein. Ça a un certain bon goût, comme du sucre. Et ça les détruit à l'intérieur, ça crée d'autres maladies. Même les médecins le disent. Ne pas laisser le péché respirer. Dès qu'il t'a pris, confessez. Là, il me dit, mais demain, je suis tombé encore. Oui, tu confesses. Voilà. Ah oui, mais ça fait trop. Qui t'a dit que ça a été trop? Montre-moi le verset qui nous dit que c'est trop. Il n'y en a pas. Tu confesses. Parce que ton Seigneur est mort à la croix pour cela. Tu dois manifester ton choix qui est le rejet du péché. Manifester ton choix qui est le rejet de te soumettre aux idées diaboliques comme quoi on ne peut pas résister au péché. C'est faux, on peut résister au péché. 1 Jean 3 nous dit, celui qui est de Christ, en chapitre 9, verset 9, 1 Jean 3, 9, ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu est en lui. Si vraiment tu as la semence de Dieu, tu dois lutter jusqu'à ce que le péché disparaisse. Ne pas le laisser respirer. Ce n'est pas parce que tu as appris que quelqu'un est tombé que ça justifie que toi aussi tu tombes. Non. Tu dois refuser. Ne pas tourner autour du péché. Parce qu'on finit par tomber. Lorsqu'on sent que le péché se trouve dans telle rue, évitez cette rue-là. Ne pas toujours se rapprocher. Il y a une sœur qui t'envoie un texto. Comment ça va, mon chéri? Tu ne réponds pas. Parce que tu sais que si tu dis, mais c'est quoi? Elle va dire, non, je fais ça comme ça, il n'y a rien, écoute. Mais non, tu ne réponds pas. Quand tu réponds, ah oui, ça va. Mais j'ai pris son frère et soeur, il n'y a rien. Hein? Mais comment tu peux dire ça va dans telle chose? C'est comme ça que ça commence. Et puis demain, ça va être encore un autre texto flou. Tu dis, mais si je ne réponds pas, ça va être mal poli. Ne faut pas répondre. Et c'est comme ça que les textos, de texto en texto, après ça va devenir des têtes là jaunes là qui sourient là, je ne sais pas comment. Donc, mais c'est seulement vers minuit 30 que ça vient. Et c'est comme ça que tu laisses ça se travailler en toi. Toi, tu crois que tu résistes. Tu ne résistes pas parce qu'il ne fallait pas répondre. Et ça travaille. Un jour, tu te réveilles, tu es déjà dans le piège. In the net, comme on dit en anglais, tu es dans le filet. Tu es dans le filet, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à te passer de ces textos-là de minuit 45. Il faut lutter. Déjà, l'affaire, c'est dans les textos. Tu luttes déjà dans les textos. Il y a des gens qui disent, oh, mais elle est en Australie, moi je suis en France, qu'est-ce que ça peut faire? On peut tomber dans le net en Australie, dans le filet. La personne est loin, mais tu tombes dans le filet. On a fait tomber un pasteur comme ça. La personne était en Australie, justement. Le pasteur a commencé à dire n'importe quoi. Oh, je m'ennuie avec ma femme ici, et tout ça, ainsi de suite. Or, il était enregistré. Tout ça a commencé par les textos, puisque la personne est en Australie, toi tu es en France, ou je ne sais pas, en Belgique, je crois qu'il est en Belgique. Mais des bons textos. Toi, si tu réponds, bon texto, parce que quand j'étais petite, c'était tes chants qui me faisaient du bien. Lui, on s'est dit, ah bon, et ça a commencé comme ça, puisque c'était un chanteur autrefois. J'étais, oh, ah bon, mais je n'ai pas changé. Et de fil en aiguille, avoir un mari comme toi, ça va être super, quoi. Ah, c'est comme ça que le type s'est retrouvé dans les nets. Don't be caught in the net. Ne vous laissez pas attraper dans le filet. Donc quand c'est comme ça, tu ne réponds pas. À Dieu c'est la gloire. Ah bon, mes chants lui faisaient du bien, je ne réponds pas. que ça, la gloire aille à Dieu seul. Amen. N'attendez pas que ça chauffe. Parce que quand ça chauffe, c'est trop tard. Et que tu veux sortir du filet, ça s'appelle le filet de l'oiseleur. Tu ne peux plus. Mais tu peux quand même, tu cries, tu nous appelles quand même. Il y a des pompiers, tu cherches les pompiers autour de toi pour appeler quand même. Même si tu es déjà dans le filet, cherche les pompiers, il y a les numéros des pompiers. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Tu invoques quand même Dieu et tu demandes l'aide des frères et sœurs. Mais c'est comme ça qu'on s'est fait attraper, parce qu'on n'a pas lutté, on n'a pas résisté. Il faut résister. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il faut les avouer. Quand on les cache, ça fait, on les laisse travailler tranquillement. Il ne faut jamais laisser le diable travailler. Il ne faut jamais laisser le venin travailler. Attaquez tout de suite. On va lire un dernier passage qui est très, très important, ce passage-là. 2 Timothée 2, 25 à 26. 2 Timothée 2, 25 à 26. Je ne vais pas employer le mot peut-être possédé pour ne pas gêner certaines personnes qui ne peuvent pas accepter qu'un chrétien soit habité par des démons. Mais on va parler de l'emprise, parce que c'est une réalité. On ne va pas tomber dans la discussion doctrinale, mais restons dans la réalité. La réalité, c'est qu'il y a certains chrétiens qui sont sous une emprise. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ça peut être la cigarette. Ils confessent tous les jours, mais ils confessent pas tous les jours plutôt. Ils semblent vouloir lâcher, mais ça continue. Ça peut être les mauvais films. Ça peut être beaucoup de choses comme ça, la colère. Oui, il y a l'emprise, ça existe. Nous allons lire 2 Timothée 2, 25 à 26. On parle du vrai serviteur de Dieu. On peut commencer au verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté? On a bien lu, hein? Le diable a fait quoi? Il s'est emparé d'eux. Et on parle de qui? On parle des gens qui sont des enfants de Dieu. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Il ne s'agit pas des adversaires seulement, de dehors, des adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera. Parfois, il y a des adversaires dans les choses de Dieu, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Certaines personnes sont sous une emprise. Le diable s'est emparé d'eux. Comment il s'est emparé d'eux? Il s'est emparé d'eux parce qu'ils ne se sont pas repentis. C'est écrit, Dieu leur donnera la repentance. Ils ne se sont pas repentis. Nous devons prier pour eux, pour que Dieu leur amène à se repentir, à reconnaître que ce qu'ils font est mauvais. Il y a des gens qui n'arrêtent pas la cigarette parce que dans leur tête, quelque part, ce n'est pas si mauvais que ça. Donc, il faut qu'on prie pour que Dieu leur accorde la repentance. Il y a des gens qui n'arrêtent pas avec la colère parce qu'ils estiment que leur femme est trop mauvaise. Et donc, ça justifie leur colère. Il faut qu'on prie que Dieu leur accorde la repentance. Il y en a qui n'arrêtent pas avec la colère parce qu'ils s'estiment avoir toujours raison. Donc les autres ont toujours tort. C'est pourquoi ils sont tout le temps en colère contre les autres. Donc il faut qu'on prie pour que Dieu leur accorde la repentance parce qu'ils sont déjà sous emprise. Il y a des gens qui mènent de doubles vies par les téléphones. Ils ont des relations avec d'autres personnes par le téléphone, par ordinateur. Et ça finit, ils finissent par trouver ça normal. Ils ont leur justification. Il y a plein de justifications. Ça peut être parce qu'on a des problèmes soi-même dans son couple ou bien dans sa famille. Ça peut être parce que on est incompris. Ils ont leurs raisons. Ça peut être même la personne avec qui ils ont une double vie. C'est quelqu'un même qui les exhorte. Vous savez que c'est rigolo. Il y a des gens. Double vie avec qui un pasteur? Double vie avec qui? Avec un grand évangéliste. Ils discutent de Dieu, mais en amoureux. Mais oui, Oui, et maintenant, donc il y a une raison qui te dit, oh, c'est un vrai serviteur de Dieu. Donc, c'est comme si c'était un vrai serviteur de Dieu, le péché devient bon. Ah non, c'est le péché. Il discute de Dieu aussi. Ah non, il faut prier toujours. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et à la fin, je t'embrasse au cou. Ah, bien-aimé. Non, c'est le péché. C'est pas parce que la personne parle de il faut prier, il faut faire ceci, il faut. C'est le péché. Dans combien d'églises les gens tombent comme ça? Parce que ils se disent, mais oui, mais on est dans un cadre chrétien, on est ensemble. C'est comme si tomber dans le cadre chrétien n'est pas si impur que ça. C'est impur. Ça tue, le péché ça tue. Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Le péché tue. Ça empêche que notre carrière se fasse, que le projet du Seigneur pour nous s'accomplisse. Vous savez ce passage-là? Moi-même, je l'ai lu venant de quelqu'un qui l'avait reçu parce qu'il était fatigué des délivrances de 8 heures, de 5 heures. Il faisait 5 heures, 8 heures de délivrance, 3 heures, 1 heure, 2 heures de délivrance. Au milieu, dans les milieux chrétiens, un jour il a cherché la face de Dieu, Dieu lui a donné ce passage. Et depuis ce jour-là, sa façon de prier pour les gens a changé. Il a commencé à rechercher à ce que les gens se repentent vraiment. Beaucoup sont sous une emprise démoniaque parce qu'ils ne se sont pas repentis. Et ce passage dit clairement, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Vous vous souvenez, Jésus lui-même a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Souvent, le diable a créé une fausse vérité autour du péché. Et on ne s'en repent pas parce qu'on est sous une fausse vérité sur ce péché-là. Il y a sous une des justifications, on trouve un moyen de ne pas se repentir. On est dans une fausse vérité. Alors, et on ne se repent pas. Alors, prions, comme il est écrit, pour arriver, qui leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils n'ont plus le bon sens. Ils ne voient plus les choses comme nous. Ils sont ailleurs. Ils ne voient plus les choses comme nous. Vous savez, les gens qui sont dans l'homosexualité et qui se prétendent chrétiens, ils vont dire, mais Jésus est pour l'amour. Il est pour l'amour. Où est le mal? Le mal, c'est que c'est interdit. 1 Corinthiens 6, 9 interdit ça. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Lévitique interdit ça. Une relation entre un homme et un homme, une femme et une femme, c'est interdit. Mais eux, ils vont dire, mais c'est l'amour. Donc vous comprenez comment les gens construisent leur propre vérité. Du coup, ils ne s'en repentent pas. Comment ils vont être délivrés? Un jour, j'ai eu un débat à la télé avec des homosexuels. Il y a un qui m'a dit, mais pasteur, moi j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai pas été libéré, tu veux que je fasse comment? Moi je lui ai dit, mon frère, il faut persévérer. Tu as jeûné une fois, tu as prié. C'est ce que tu es en train de dire là, bien-aimé. Il faut persévérer. Tu t'es repenti aujourd'hui, demain tu te repens. Après le lendemain, tu te repens. 5 jours après, tu tombes, tu te repens. Quand tu mènes cette lutte comme ça, ardue, face au péché, ça finit par te quitter. La Bible même nous le dit, résister au diable, il fuira. Il fuira. Il m'a dit, il était sincère, il était comme, c'est comme s'il était d'accord avec tout ce que je disais, alors que les autres étaient vraiment opposés à moi. Lui, il m'a dit, mais pasteur, mes bien-aimés, quand vous voyez ce jeune homme-là, il avait un corps de femme. Ça m'a fait mal. Il dit, mais pasteur, moi j'ai prié, j'ai jeûné, mais je n'ai pas été libéré. Donc du coup, il a accepté cet état-là. Tu as prié, tu as jeûné aujourd'hui. Demain, il faut prier encore. Demain, le lendemain, il faut le faire. Il ne faut pas laisser, souvenez-vous, dans cette prédication, la phrase importante, c'est ne pas laisser le péché le temps, au péché le temps de travailler. ne lui laissez pas le temps de travailler. Tu pêches, tu t'en rends compte, tu te repens. Il n'a pas le temps. Vite nettoyer. Tu pêches encore, tu te repens. La repentance, c'est ça notre victoire. À un moment donné, le péché serait fatigué de se faire nettoyer, il va fuir. Il va fuir. Mais quand on le laisse travailler sous des fausses vérités, on ne se répand pas. Il travaille, il détruit et finalement ça devient une emprise. Et quand ça devient une emprise, ça devient difficile maintenant. Mais quand Dieu nous accorde une vraie repentance, c'est pourquoi je vous dis que ce verset est très important parce que beaucoup me diront, mais pasteur, moi je me suis repenti. Mais quand vous allez discuter avec eux, vous allez voir que ils se sont repentis officiellement, mais au fond, ils gardaient toujours des raisons dans leur cœur. Au fond, ils ont une autre position. Mais officiellement, ils se sont repentis et ils ne sont pas libérés. C'est pourquoi ce verset nous dit que Dieu leur accordera la repentance, leur donnera la repentance. Donc, une vraie repentance, c'est ça qui libère. Une vraie. Et beaucoup, vous allez discuter avec eux sur certaines choses, vous allez vous rendre compte que leur repentance est une repentance officielle. Elle n'est pas réelle. Ils n'ont pas vraiment considéré que ce qu'ils ont fait est mauvais. Ils n'ont pas vraiment considéré ça clairement. Il y a des justifications. D'une manière ou d'une autre, à partir de là, la repentance est forcée. Donc on laisse les esprits travailler et ça devient une emprise. C'est très dangereux. Bien-aimés, réveillons-nous. Ne laissons plus le péché travailler en nous. Ni la colère, ni l'impudicité, ni la jalousie. Il y en a qui sont là. Ils sont dans l'esclavage, ils sont sous l'emprise des vêtements. Emprise des marques. Au lieu de reconnaître que c'est une emprise, oh, où est le mal? Vous savez, la réponse de beaucoup de personnes, c'est toujours, mais où est le mal? Refus de repentance. Refus de repentance. Et tu vas les voir. Toi, tu as mis des lunettes. Ils s'approchent pour voir la marque. On a déjà attrapé certains. Et ils vont dire après, où est le mal? Oui, si c'est un mal, toi, tu t'approches pour regarder la marque, les lunettes de l'autre. Pourquoi? C'est un mal. C'est de la jalousie. Mais à force de dire où est le mal, parce que pour toi-même, quand ton mari t'a dit, mais ma femme, ou bien ton frère t'a dit, ma soeur, pourquoi tu cherches, où est le mal? Mais où est le mal? Un jour, on va t'attraper. Bien aimé, vous savez, lors d'un deuil, on a parlé d'une prédication, tout est enregistré. Au ciel, on montrera le film quand tu regardais les lunettes, la marque des lunettes de l'autre. Tout est enregistré, on verra ça. Où est le mal? Le mal, c'est que tu es accroché. Les lunettes, c'est pour nous aider à voir. Est-ce que la marque va... marque, je ne sais pas, ça s'appelle Prada. Hein? Est-ce que c'est ça qui va t'aider à voir ou bien les verres optiques, là? Mais quand tu es maintenant à la maison, tranquillement, on va dire, hey, où est le mal? On est sur terre. Hein? On est sur terre, mais voilà là où ça amène. Tu commences à regarder, chercher les marques de l'autre. C'est pas bon. Tu es tombé dans la jalousie basse parce que tu n'as pas accepté de te repentir de ta faiblesse par rapport aux choses de la terre. Ça va t'amener dans des jalousies basses et qui seront démontrées un jour. Il y a des gens qui disent, mais moi ça ne me dit rien. Mais ça ne me dit rien, mais il est toujours fâché de voir que les autres en ont. Mais pourquoi si ça ne te dit rien? Laisse-les vivre leur vie, ta vie, ta vie. Mais pourquoi tu es toujours dans les commentaires? Mais un tel a fait ceci, un tel a s'habillé comme ça, un tel... C'est pas ton problème. Toi, suis Jésus dans la simplicité. Si tu commences à trop parler des autres, c'est que toi aussi tu aimes ça. Mais c'est parce que tu n'en as pas, c'est tout. Vous savez, si on ne se répand pas clairement... Hein, Dieu va nous dévoiler. Il va nous dévoiler. Tout est enregistré. La solution, c'est la repentance. Reconnais que ce que tu fais n'est pas bon. Le concubinage n'est pas bon. L'homosexualité, ce n'est pas bon. Le petit copain, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Reconnaissons que la cigarette, ce n'est pas bon. Le mensonge, ce n'est pas bon. Il y a des gens qui utilisent le mensonge comme si c'était du sel. Ah ben, ça arrange un peu la situation. Mais non, ça reste un mensonge. Ce n'est pas bon. Ça change la façon de vivre avec la personne. Reconnaissons tout ça. Les critiques injustifiées. Ce n'est pas bon. Les critiques mal intentionnées, dans le but de nuire. Ce n'est pas bon. Reconnais ça. Ben, j'ai mal parlé. Mais non, on ne veut pas. Et ça finira un jour. Tu vas envoyer le texto à la mauvaise personne. Donc, ça dit qu'à la personne que tu critiques, tu envoies un texto alors que tu devais envoyer à quelqu'un d'autre. C'est là que ça va être dévoilé et tu vas comprendre que ce n'est pas bon. Voilà. Femme, soyez soumise. Ah non, moi, si je suis soumise, le type, il va se prendre pour quelqu'un. Donc, je peux pas lui laisser le temps. D'ailleurs, c'est ma grand-mère qui m'avait expliqué ça. Donc, toi, tu veux suivre ta grand-mère au lieu de suivre la Bible. Un jour, tu seras dévoilé. C'est pas bon. Bien-aimé, si nous voulons éviter d'échouer notre parcours, si nous voulons éviter d'être possédés sous l'emprise des démons, apprenons à nous repentir. Si nous voulons la victoire, apprenons à nous repentir. La repentance permet le renouvellement. La repentance permet un nouveau départ. Voilà la parole du Seigneur pour aujourd'hui. Que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre et se repentir sincèrement devant Dieu et dire à Dieu, je crois que tu peux me donner une vie nouvelle. Tu as la puissance pour cela. À la croix, tu as crié, tout est accompli. Amen.